Vous écoutez
RMC.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à La Beaujoire, Nantes. L'équipe de France débute sa préparation pour la Coupe du Monde ce soir. Le chemin vers la troisième étoile débute ici, face à la Côte d'Ivoire. Coup d'envoi 21h10 de cette rencontre qui sera en intégralité bien sûr sur RMC avec à mes côtés Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut Jean-Louis.
La Dream Team ce soir c'est Kevin Diaz qui sera là aussi pendant le match. Salut Kevin.
Salut à tous.
Et Maxime Chanot dans l'avant-match. Salut Maxime.
Salut à tous.
Alors on va évidemment avoir les compos d'équipe d'ici quelques minutes et on va poser les enjeux de cette rencontre. Est-ce que les lignes peuvent vraiment bouger dans l'esprit de Didier Deschamps d'ici au Mondial? Est-ce que Mbappé a la clé de la réussite de cette Coupe du Monde? Lui qui peut battre ce soir le record de buts en équipe de France. On vous dira tout sur la Côte d'Ivoire avec deux invités. Patrice Baumel, l'ancien sélectionneur, et la légende Gervinho, champion de France avec Lille. Ils seront avec nous en direct d'ici quelques minutes. Et puis on va se projeter sur le Mondial côté logistique, des prix exorbitants, la Fédé qui ne veut donc rien lâcher aux joueurs, même au niveau des primes et des places. On aura des infos à vous donner. On va vous poser la question au 32-16. Cette Coupe du Monde hors de prix, est-ce qu'elle vous gâche déjà le plaisir? 32-16, mais également la page YouTube de l'After où vous pouvez envoyer vos messages, vos commentaires. On vous attend bien sûr sur RMC jusqu'au coup d'envoi de ce France-Côte d'Ivoire.
Marcus Thuram qui sert Cherki, la frappe à venir, qui est contré, le but! Le but de l'équipe de France! Désiré Doué!
C'est pas terminé pour les éléphants.
Ou Amad Diallo! Amad Diallo, le festival! C'est du génie! L'inspiration d'Amad Diallo qui ouvre la marque pour les éléphants! Allez, Mbappé en profondeur, on a contre le voilà peut-être le but! Le ballon piqué! Et but! Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France!
Amad Diallo va trouver plutôt Yann Diomandé! Pour le deuxième but des éléphants, on parlait de lui tout à l'heure, qu'on attendait ce but.
Et qui dit qui va décaler Rabiot, allez, à quoi jouer pour les Français, il y a un surnombre avec Michael Olise qui accélère, qui a mis la surmultiplier, qui va décaler, qui dit le piqué et le but. Le but du camp et qui dit qui.
Écoute Maxime, on va reprendre parce que apparemment là il y a une petite coupure avec Nantes. Donc comment tu vois toi le match de l'équipe de France ce soir?
Bah surtout je vois pas forcément énormément de surprises. On sait que Didier Deschamps, hein, tu l'as bien vu, va se priver un petit peu de ses Parisiens, ses internationaux parisiens. Donc c'est forcément, ça va être une défense un petit peu new look aussi avec l'absence de Saliba, hein, on le rappelle, qui s'est blessé sur la finale. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi je pense que c'est juste un match de répétition en règle générale. Kevin, tu sais comment que ça se passe, hein. Les joueurs font quand même vachement attention, c'est le début de la compétition, ils veulent pas vraiment tout donner pour se blesser. Je sais qu'il y en a certains, et c'est ça je me pose la question, tu me diras ce que t'en penses, mais certains disent qu'il y a encore des joueurs qui ont quelque chose à jouer. Moi, pour moi, dans la tête de Didier Deschamps, je pense que c'est réglé.
Je pense que
l'équipe, elle est déjà réglée, évidemment.
Je pense pas que Cherki peut gagner sa place.
On a eu le débat hier, c'est intéressant, mais quand tu vois un petit peu le match contre le Brésil qui a eu au mois de mars, où est-ce que Olise a été très performant, Kylian Mbappé, évidemment, le capitaine de l'équipe de France qui est absolument imbougeable, Ousmane Dembélé Ballon d'Or, peut-être Désiré Doué.
Ouais, mais avec la blessure du coup d'Hugo Ekitike, il y a quand même une place à prendre dans
cette équipe. Quelle position tu le mettrais?
Bah Cherki derrière l'attaquant, ouais. avec potentiellement Kylian Mbappé en pointe et Olise à droite et Dembélé un peu en mode libre un petit peu sur le côté gauche.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après la vraie question c'est de savoir si Désiré Doué va débuter cette compétition. Moi je me posais la question aussi parce que je suis convaincu, et ça on verra et on va avoir les premières réponses en fonction de ce match-là contre la Côte d'Ivoire. Moi je suis convaincu que cette ligne de 4, Didier Deschamps va sûrement commencer la compétition avec, mais ne va pas terminer avec. Donc ça voudrait dire qu'on va forcément enlever un offensif pour remettre un numéro 8. Et est-ce que Désiré Doué serait en position de force pour pouvoir jouer en tant que troisième milieu défensif, entre guillemets milieu relayeur bien entendu, parce qu'il y a Tchouaméni et Rabiot qui sont là et qui sont absolument imbougeables. Voilà, Cherki évidemment super joueur.
Imagine aujourd'hui deux passes D, un but.
Ah ben évidemment, et d'ailleurs on les a vus, hein. Historiquement il y a certains joueurs qui peuvent encore marquer des points, mais par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à la saison, alors je parle pas de qualité intrinsèque, parce qu'évidemment Cherki on sait très bien que c'est un top joueur, il nous l'a montré encore cette année avec Manchester City. Pour moi, à mes yeux et aux yeux de Didier Deschamps, par rapport au choix qu'il a fait, j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui Cherki puisse rentrer titulaire, au dépens évidemment de Désiré Doué qui a fait une saison exceptionnelle.
Bah écoute, on a Pierre qui est auditeur là, qui va peut-être nous donner son avis. Salut Pierre.
Oui, bonsoir messieurs.
Salut Pierre.
Alors, qu'est-ce que t'en penses?
Bonsoir à Jean-Louis, mais voilà.
Bah, Jean-Louis, il arrive, t'inquiète, ouais. Il arrive. Pour l'instant, c'est moi qui gère. Mais vas-y, Pierre, dis-nous ce que t'en penses, là, de l'équipe de France, de ce match à Nantes pour débuter cette préparation.
Eh ben, vous savez, j'étais passé à côté, qu'il y avait un match, heureusement que j'écoute l'after. Ouais,
j'ai ça, l'impression c'est important
que
c'est d'écouter
monde, personne n'en parle.
On en parle dans l'after, quand même.
Oui, ben justement, s'il n'y a pas l'after, personne n'en parle.
Et dans les émissions de l'après-midi aussi, sur RMC.
Ouais, Moscato parle que de rugby, parle que des gens qui sont un peu plus faibles et tout ça, et il parle de rien.
Donc toi, tu voulais nous dire un mot sur Kylian Mbappé?
Eh ben oui, moi je pense que tout ce qu'on entend sur Mbappé, qu'il est pas bon, certains qui disent l'équipe de France est meilleure sans lui, c'est hallucinant de dire ça. Parce que moi je pense que Mbappé, il a focalisé sa saison quand il a vu qu'avec le Real, il pourrait pas gagner grand-chose malheureusement pour lui. Eh ben il a focalisé sa fin de saison sur la Coupe du Monde. Je pense qu'il va être fin prêt pour la Coupe du Monde et il va faire une grande Coupe du Monde parce qu'il veut absolument la gagner avec l'équipe de France.
Et toi Pierre, tu le mettrais où sur le terrain?
Ah, parce que c'est ça la vraie question, c'est savoir si tu le mets en pointe ou alors si tu le mets sur le côté. Et en particulier
c'est où tu
à gauche,
trouves le meilleur?
Eh ben son meilleur poste ce serait à gauche. Mm-hmm. Son meilleur poste ce serait à gauche, ou alors il faudrait les laisser libres de mouvement entre Dembélé, Mbappé et Olivier. Et après, bon, on sait très bien que Deschamps, il ne mettra pas un quatrième offensif, hein, faut pas rêver.
Il va détourner si, après. Pierre, excuse-moi, je te coupe, mais il va le mettre au moins pour démarrer. Ce quatrième offensif.
En tout cas, ça y ressemble, hein, par rapport aux dernières sorties de l'équipe de France. Non, il a bien mis en place quatre offensifs.
Les gars, vous connaissez encore mieux le foot que moi.
Ah, je suis entièrement d'accord avec toi.
Je suis qu'un petit entraîneur de district. Dès que les matchs vont commencer en phase finale, il va détonner Rabiot, Koné, Tchouaméni et trois attaquants.
Ouais, ça peut être logique. Ça peut être logique.
Ça va être ça.
Et par rapport à...
Il a toujours fait ça.
Je suis d'accord avec toi. Et par rapport à Kylian Mbappé, moi, j'ai un peu peur, justement, de son positionnement. Alors, beaucoup le veulent à gauche et mettent Ousmane Dembélé en numéro 9. Moi, j'ai un peu peur que ça crée un petit peu un déséquilibre. Un déséquilibre parce qu'on connaît Kylian Mbappé. On sait que c'est pas forcément sa grande qualité de défendre. On connaît aussi le jeu pragmatique de Didier Deschamps.
Arrêtez avec ça.
Alors, attendez. Là, je suis de retour. Donc, quel est le prénom de notre ami au 32-16?
Pierre.
Ah bah bien sûr, Pierre de Clermont-Ferrand. Je te redonne la parole juste après, Pierre, et vous finirez sur Mbappé, ce que vous avez commencé à dire. Je sais pas ce que vous avez raconté depuis tout à l'heure, mais merci déjà. On a les compos déjà. Comment ça, je vous écoute jamais? Qu'est-ce que tu racontes? Il faut lui. Bon, non mais Pierre, on a les compos, donc on va donner les compos et après on reviendra sur Mbappé et je te redonne la parole, promis. On va commencer par la compo des Bleus, Fabrice, sans surprise par rapport à ce que vous aviez annoncé sur rmcsport.fr.
Exactement, Mike Maignan dans les buts, à gauche Théo Hernandez, à droite Jules Koundé, axe Dayo Upamecano et Ibrahima Konaté, les deux compères de Leipzig qui ont déjà joué ensemble, hein, qui ont l'habitude. Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni devant la défense. Ensuite, quatre joueurs, Marcus Thuram, Ryan Cherki, Olise Mbappé à voir l'animation. A priori donc on aurait Olise à droite, Ryan Cherki en 10, Marcus Thuram à gauche avec Kylian Mbappé capitaine en pointe qui permuterait donc avec Marcus Thuram.
Et la compo de la Côte d'Ivoire avec plein de joueurs qui sont passés par la Ligue 1 et qu'on connaît. Yaya Fofana, donc l'ancien joueur du Havre et d'Angers dans les buts. Défense centrale avec Agbadou, l'ancien Rémois, et Wilfried Singo, l'ancien Monégasque. Ghislain Konan à gauche, lui aussi ancien de Reims. À droite, Guéladoué, le Strasbourgeois. Au milieu de terrain, Seko Fofana qui a terminé son prêt avec Porto. Il a été champion du Portugal et qui revient à Rennes. Accompagné de Franck Kessié et de Diakité au milieu terrain, c'est fait. Et donc devant, Yann Diomandé, dont on reparlera dans cet avant-match, sur le côté gauche de l'attaque. Eli Wahi à la pointe de l'offensive et Simon Adingra, donc le joueur de Monaco, sur le côté droit. Voilà pour les deux compos. Sur la compo des Bleus, Kevin, il n'y a pas de surprise, hein. On a envie de voir quand même le quatuor offensif, ce que ça peut donner.
Ouais, bah exactement. C'est vrai que nous, on se posait la question là avant que tu arrives avec Pierre, notre auditeur, comment allait s'animer, s'articuler cette équipe de l'équipe de France. Lui, il pensait pas que Deschamps allait commencer à quatre offensifs, même pas la Coupe du Monde. Là, je pense qu'il se trompe, mais en tout cas, ce soir, je pense que. Comment?
Ah, il a pas dit ça.
Bah, t'as dit qu'on allait pas débuter la Coupe du Monde avec quatre attaquants.
Quand ce sera les matchs qui vont compter.
Ah, ok.
Phase finale, il l'a jamais fait.
C'est Kevin qui t'écoute pas en fait.
Et je rejoins notre auditeur pour le coup, par rapport à son avis.
Bah, ça moi je suis pas loin d'être d'accord. En tout cas, ce soir on va voir les quatre offensifs. Je pense qu'avec Marcus Thuram, Kylian Mbappé, est-ce qu'il va être à gauche? C'est la vraie question. Est-ce qu'on sait ça, s'il est à gauche ou il est en pointe?
Fabrice, est-ce que tu as des éléments?
A priori en pointe, mais ça demande confirmation. Moi, il y a deux choses moi qui m'intéressent dans cette composition d'équipe, si vous voulez tout savoir. C'est le positionnement de Kylian Mbappé. Je pense qu'il va jouer devant, très honnêtement, parce qu'ils ont déjà joué comme ça avec Marcus Thuram à gauche et Mbappé devant, ce qui ne les empêchera pas de permuter, un peu comme avait fait Hugo Ekitike et Kylian Mbappé.
Moi, je vois plus ça en fait. Ils vont échanger de position. Les deux peuvent jouer dans les deux positions. Donc, à mon avis, ça va être ça.
Et ensuite, on parlera du positionnement d'Olise.
Pas que, c'est la même chose avec Cherki, avec Olise. Ça se déplace énormément. On l'a vu sur les derniers matchs. Alors, la grosse problématique, c'est de créer un déséquilibre. Mais c'est vrai que sur ce qu'on a vu sur les deux dernières sorties, en règle générale, les joueurs ont été assez intelligents pour se couvrir chacun l'un et l'autre. Moi, j'avais un peu peur sur justement le Marcus Thuram Mbappé, cette association. Je me rappelle qu'il se marchait un petit peu sur les pieds, donc on va voir ce que ça va donner. Après, ça va nous donner aussi un petit peu des réponses par rapport à l'investissement défensif de Kylian Mbappé s'il devait jouer sur le côté gauche.
Exactement, ça va être une curiosité. Enfin, et donc Pierre, qu'est-ce que vous étiez en train de vous embrouiller sur Mbappé, c'est ça, quand je suis revenu?
Non, c'est pas embrouillé sur Mbappé.
C'est une discussion animée. Voilà.
On était en train de se demander si Kylian Mbappé allait jouer justement en pointe ou plus sur le côté gauche. Maintenant, il y a quand même une problématique. Ça va être qu'est-ce qui se passe sans le ballon. Parce que c'est bien beau de permuter beaucoup offensivement, mais ensuite il faut que les positions soient quand même tenues défensivement à la perte du ballon. Et c'est là.
C'est précisément pour ça que Marcus Thuram va jouer dans une position à gauche, à mon sens, parce que c'est à lui que va revenir ce sale boulot entre guillemets d'aller couvrir le côté gauche avec Théo Hernandez, avec Adrien Rabiot aussi, ce qui n'empêchera pas Kylian Mbappé de faire les efforts. En tout cas, à minima, c'est ce que le staff attend de lui, c'est ce que les autres joueurs attendent de lui, et sur les derniers rassemblements, il l'a plutôt bien fait.
Alors, qui défend ou pas Mbappé, on s'en fout en fait. Deschamps, il a toujours assumé que si Mbappé il défendait pas, il s'en foutait. Que en gros, l'équipe autour de lui, elle devait défendre pour que lui soit dans les meilleurs.
Ça marche tant ça gagne.
Mais ça, et surtout, ça fonctionne quand il joue numéro 9. Tu peux pas avoir un Kylian Mbappé positionné à gauche.
Je suis pas d'accord.
Surtout pas avec Didier Deschamps.
2018 et 2022, il était sur un côté, il défendait pas.
Bah, il défendait pas parce que t'avais Blaise Matuidi qui couvrait, parce que
2018
était un bon coup. Non. Et 2022, il jouait plus à deux attaquants avec Giroud, du coup.
Mais bien sûr, il n'avait pas le même statut, il n'avait pas le même boulard, si je peux excuser moi du terme, mais en règle générale, il est quand même beaucoup plus collectif. Là, aujourd'hui, t'as une équipe de France qui joue pour Kylian Mbappé. Quand il arrive en 2018, messieurs, excusez-moi, il est au service du collectif. Même si ça n'enlève pas les qualités individuelles qu'il a, attention.
Mais ça, l'équipe de France qui joue pour Kylian Mbappé, je pense que ça va être de moins en moins vrai. Même si ça reste le leader, on sait que de toute façon, pour que l'équipe de France aille loin, il faudra un grand Kylian Mbappé. Mais à côté de lui, il a des joueurs de très très haut niveau qui veulent aussi se montrer, qui veulent aussi être performants, qui n'entendent pas se faire marcher dessus. Et je suis pas sûr que ce soit le tout pour Kylian Mbappé.
Et ça me fait un peu
désolé, mais si ce que tu dis c'est vrai,
évidemment que c'est ce qu'il dit c'est vrai.
Ça sent 2010 alors, où ça va s'embrouiler tout le temps.
Il n'y a absolument pas de pression. Ils s'entendent très bien justement. C'est ce que j'allais te dire par rapport à 2010, et c'est la très grande différence, c'est qu'ils s'entendent très bien. C'est pas parce que je te dis qu'aujourd'hui ils veulent tous briller qu'ils vont se tirer dans les pattes. Au contraire, Ousmane Dembélé s'entend très bien avec Kylian Mbappé et ils ont très bien intégré Olise. Donc si ça marche pas, on pourra pas dire que c'est parce qu'ils s'entendent pas.
Ouais, mais là je te rejoins Fabrice, moi j'ai un peu peur de la guerre des égos. Alors pour l'instant, ça a l'air d'aller, tout le monde a l'air d'être copain avec tout le monde et ça sera sûrement le cas parce que aussi les résultats suivent. On a été dans les vestiaires, on sait comment que ça se passe en règle générale dans un club de foot, même comme dans une sélection, et quand les résultats commencent à être un petit peu plus poussifs, c'est là qu'on voit vraiment le vrai caractère des joueurs. Attention, moi, je pense qu'on est tous très positifs sur cette équipe de France. Qualitativement, je pense que c'est peut-être la meilleure sélection de ce mondial. Je me pose juste la question par rapport à cet aspect un petit peu mental, cet aspect un petit peu équipe en règle générale. Attention, si jamais le premier résultat, parce qu'on sait que les deux premiers matchs c'est des matchs compliqués, le Sénégal, la Norvège, c'est quand même pas des équipes.
L'Irak, excuse-moi.
En tout cas, le Sénégal, l'Irak, c'est quand même le premier match. On sait que c'est un match qui est compliqué. Il faudrait pas que justement, s'il y avait un petit peu un match poussif de la part de l'équipe de France, que cette bonne entente soit remise en cause.
Alors Pierre, merci d'être venu au 32-16. Je te souhaite une bonne soirée. Dans cet avant-match, il faut aussi avoir en tête donc que Mbappé peut battre le record d'Olivier Giroud. Il est à un but du record de Giroud et ce serait quand même un clin d'œil du destin incroyable puisque donc Giroud a pris le record à Thierry Henry et Thierry Henry a pris le record à Michel Platini ici même le 17 octobre 2007 à la Beaujoire à Nantes dans un match où Henry avait mis un doublé ce soir-là contre la Lituanie il me semble, et donc il avait porté son total à ce moment-là à 43 buts. Il était devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, donc Mbappé s'y met un doublé, peut-être atteindre ce rang-là, et si c'est pas pour ce soir, ce sera pour un autre moment sans aucun doute.